Tu m'as fait le cœur. Hein.
Allons donc.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas, mais qui a du cœur.
Carré de roi.
Carré d'As, dommage.
Impossible, ma cinquième carte était un as.
Je déteste être accusé de tricherie, surtout quand je joue.
À présent, enlève ton costume. Nous allons continuer avec 52 cartes seulement.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas, mais qui a du cœur.
Allô, allô.
Chut, ça tourne.
Bonjour et à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième émission de Carré d'As, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur. Une émission préparée depuis un petit mois avec des volontaires en service civique du centre social, des habitants du quartier et des fidèles des lieux.
On est en public à Carré d'As au repas de fin d'année de l'atelier Petite Enfance à Zoé Pium. Je suis Samira et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, Marine et toi Yann avec qui on a préparé cette émission.
Et oui Samira, et pour cette dernière émission de l'année, avant les vacances, on parle de famille, la nombreuse ou la petite, la recomposée ou la solide comme un roc, celle d'ici ou celle d'ailleurs. Et pour ça, on a laissé traîner nos micros dans les rues de Morlaix ou encore au cœur des familles des participants de cette émission. Mais c'est pas tout, il y a aussi des invités autour de ce plateau, Marine.
Et oui, car on accueille Esther, référente famille au centre social, Carré d'As, mais aussi Alexandre et des spectateurs de l'émission.
Mais pour l'heure, on commence tout de suite avec une question simple posée dans les rues de Morlaix il y a quelques jours. C'est quoi la famille ?
Là, tu me poses une question. La famille, pour moi, c'est tout. C'est la complicité, une famille aimante tous ensemble, surtout les enfants, les petits-enfants, et aussi les autres membres de la famille, hein, pas que les enfants. Mais la famille, c'est un tout.
Bah, c'est d'être réuni avec ses parents, ses enfants, ses oncles, ses tantes.
Est-ce que pour vous, la famille, c'est obligatoirement la famille biologique ?
Non, pas obligé. Un exemple, mon fils a comme parrain et marraine ma meilleure amie et le meilleur ami de mon mari.
D'accord. Donc pour vous, les amis font partie de la famille ?
Oui, ils peuvent faire partie de la famille.
Moi, la famille, c'est pour certaines personnes, il y a deux types de famille, c'est-à-dire la famille biologique, donc père, mère, et la famille qu'on peut considérer les amis comme la famille spirituelle, on va dire. Et les deux, on peut rejoindre la famille biologique et spirituelle aussi, parce qu'on les aime aussi. Et voilà, c'est un groupe de gens qu'on aime, par exemple.
Et pour vous, la famille, c'est obligatoirement la famille biologique ?
Ah non, pas du tout.
C'est-à-dire ?
Ah non, le référent est obligatoire. Enfin, un référent doit être là, c'est tout. Enfin, un référent homme, femme, pour les enfants. C'est tout. Un couple, ça peut être. C'est pas forcément les procréateurs des enfants qui sont dans la famille. Voilà, pas du tout.
Pour vous, la famille, c'est obligatoirement biologique ?
Non.
C'est-à-dire ? Vous nous expliquez un peu plus.
Tout simplement, mon plus jeune frère vient d'Éthiopie. Et voilà, c'est mon frère, c'est ma famille, quoi.
Est-ce que les amis font partie de la famille ? Non, pour moi, ça, c'est un autre cercle, un autre cercle de relations.
Je sais pas s'il n'y a pas de limite en fait, même dans la famille, entre frères, sœurs, enfants, parents. Moi je suis plutôt des années 70, moi je suis né dans les années 70, enfin 62, enfin c'est les années 60 plutôt. Mais bon, c'était plutôt grands-parents.
D'accord.
Plutôt grands-parents et arrière-grands-parents. C'était ça qui créait un tissu en fait, un tissu familial. D'ailleurs, c'est ce qui a perdu maintenant d'ailleurs. Les gens sont moins attachés à la famille parce qu'en fait, il n'y a plus un centre, il n'y a plus quelque chose de fédérateur. Mmh. Les grands-parents, les arrière-grands-parents étaient souvent fédérateurs. Mmh. Non, ils ne le sont plus. Donc peut-être que les gens maintenant, c'est plus frères, sœurs, parents et encore parents. Ça devient plus plutôt pécunier maintenant. plus que réellement un intérêt.
D'amour.
Ouais. Enfin, je le vois comme ça en fait.
Alors, pour vous, ça s'étend jusqu'où la famille? Il y a des limites?
Oui, effectivement, il y a des limites parce que maintenant les familles se sont dispersées, souvent géographiquement. Nous on est de Bordeaux. Et voilà.
Et moi j'habite
ici. Elle habite ici. D'accord. Donc voilà, bon, on est sœurs, donc le lien est très très présent et on est très proches. Mais c'est vrai qu'après on a des cousins des vrais cousins, quoi. Une famille proche mais qu'on ne voit pas parce que géographiquement les familles sont dispatchées dans la France. Et je crois que c'est souvent ça maintenant que les... Autrefois, je parlais comme mon père, les familles vivaient sous le même toit. Hein. Les grands-parents, arrière-grands-parents, parents, enfants. Et maintenant, ben, ça ne se fait plus. Et la famille s'arrête, grands-parents et petits-enfants.
En fait, des amis, on peut s'en trouver tout le temps. On peut toujours se trouver des amis, alors qu'une famille, on n'en a qu'une, ça se trouve pas. Enfin, c'est pas que si tu la perds, tu la perds et tu pourras pas trouver. Enfin, c'est... Donc après, moi, je suis en froid avec ma mère, mais ça va s'arranger. Mais bah ouais, t'en as pas d'autres de maman, quoi. Donc c'est ça qui est particulier aussi, je pense.
Alors on reçoit pour commencer cette émission la référente famille du centre social Caridas, Esther Foucault. Bonjour Esther.
Bonjour.
Alors même question pour commencer, c'est quoi pour toi la famille?
Alors pour moi c'est quoi la famille? Eh ben on a entendu plein de définitions différentes là à l'instant, c'était intéressant. Pour moi la famille, il y a deux choses, il y a la famille avec les liens du sang, qui de fait constitue qu'on est héritier d'eux, qui a des lignées, qui a des questions de génétique, voilà. On appartient du coup à une famille avec le nom de famille et on descend d'eux. Et effectivement, on l'a beaucoup entendu et je pense que ça c'est quelque chose qui se modernise un peu plus aujourd'hui, où on va parler un peu moins justement de liens de sang, mais la famille qu'on se construit. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs façons de faire famille, notamment dans les familles recomposées en fait. Où effectivement il n'y a pas forcément de lien de sang. On peut vivre avec des enfants qui ne sont pas nos enfants biologiques sous le même toit et pour autant intervenir dans leur éducation, être en couple avec la maman ou le papa, ou deux mamans ou deux papas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de manières de faire famille.
Parle-nous maintenant de ton travail au sein de Caridas. C'est quoi être référent de famille?
Je ne sais pas si les mamans, elles pourraient nous aider là-bas. C'est quoi être référent de famille, à votre avis, à Caridas? C'est quoi mon métier? Aidez-moi. Je dis ça parce que pour ceux qui nous écoutent, on est en direct de Caridas où il y a l'atelier d'éveil de fin d'année. Et puis elles sont en train d'éplucher les légumes pour le repas qu'on va tous prendre ensemble. Alors, c'est quoi être référent de famille? Donc, référent de famille dans un centre social, c'est en fait s'occuper de tout le projet familial. Donc, ce soit la coordination du projet, les animations en tant que telles, donc tout ce qui va être la partie animée, atelier, et puis tout ce qui va être la partie d'action de soutien à la parentalité. Donc ça peut être faire des cafés dans les écoles, animer des cafés à destination des parents dans les écoles. Ça peut être animer des soirées où les parents ont envie de se retrouver pour discuter justement de leur cher bambin. C'est aussi appartenir à un réseau, en fait, le REAP, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité. Donc ça, c'est quelque chose de national, départemental. Et à Morlaix, il y a un atelier morlaisien où en fait on se retrouve avec plusieurs partenaires professionnels, bénévoles, autour de questions de parentalité. Comment accompagner au mieux les parents, les professionnels sur le territoire morlaisien? Voilà. Être au cœur de leurs préoccupations et comment nous, on peut faire en sorte que le quotidien de parents soit le mieux pour tout le monde et puis répondre à des questions.
C'est quoi justement voilà. Alors, les questions que les parents se posent quand ils viennent ici ?
Bah peut-être les jeunes parents, les jeunes parents de jeunes enfants, des fois, peuvent se poser plutôt des questions autour des premières fois, parce que c'est vrai que quand on est un tout jeune parent d'un tout jeune enfant, ben, on est amené à vivre plein de premières fois. Les premières dents, les premiers pas à la crèche, les premiers repas solides. Est-ce que je dois continuer d'allaiter ou non ? Est-ce que je suis un bon parent ? Souvent aussi c'est ça. Donc forcément il n'y a pas de réponse toute faite. Et puis en fait ici c'est aussi un endroit où ça permet de se sociabiliser pour les enfants et puis pour les parents justement de rencontrer d'autres parents et de se rendre compte que les questions qu'on a, on les partage finalement et on est en tant que parents finalement, on se pose toujours de bonnes questions et je pense qu'à partir du moment où on se pose des questions, de toute façon, on est sur le bon chemin.
Aujourd'hui, on est à Caritas. Pourquoi on y parle de famille ?
Pourquoi on parle de famille ?
Pourquoi c'est important pour Caritas de mettre en avant la famille ?
Alors pourquoi c'est important à Caritas ? Parce que déjà nous sommes un centre social et pour les centres sociaux c'est un des axes en fait des centres sociaux. La famille est au cœur des axes de centres sociaux. Historiquement aussi les centres sociaux en fait étaient financés principalement par la CAF et donc la CAF, leur boulot principal c'est axé sur l'attention sur la famille. Voilà. Donc, dans tous les centres sociaux, il y a une branche et un axe qui est dédié, en fait, au bien-être des familles. Et c'est important parce que des familles, il y en a partout, tout le temps. Je pense qu'il y en aura tout le temps. Et donc, c'est au cœur de notre projet, effectivement, de faire en sorte que les familles puissent se rencontrer, puissent avoir accès à tous les loisirs, parce que effectivement dans ce centre social et dans tous les centres sociaux, notre préoccupation c'est que toutes les familles puissent avoir un accès aux loisirs, donc celles qui ont moins d'argent, qui n'ont pas forcément de mobilité au niveau véhicule, voilà, tout ça permet effectivement par les activités accessibles, je parle au niveau de tarifs aussi et au niveau de faire en sorte de les rendre accessibles par mettre en place des cars, notre minibus, d'aller dans les écoles, d'aller vers eux, voilà, et de permettre que tout le monde puisse se rencontrer, que tous les enfants puissent avoir la chance de pouvoir pratiquer diverses activités, de se rencontrer, de partager, d'échanger. Là, on voit dans le fond de la cour que c'est déjà le cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est la préoccupation des centres sociaux, en fait, depuis leur création.
Très bien, merci Esther. On se retrouve avec toi tout de suite après un deuxième extrait sonore récupéré dans les rues de Morlaix sur les souvenirs de famille. Mais avant ça, un petit extrait d'un film que vous reconnaîtrez peut-être.
Mon père était instituteur public. Il s'appelait Joseph. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux d'un noir bleuté ondulaient naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière qui s'appelait Augustine. Il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. Ils étaient mon père et ma mère de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien. Parce que ma mère, c'était moi et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour.
Et est-ce que tu peux nous raconter un souvenir de famille, que ce soit ancien ou nouveau, la fête des mères, Noël, comme tu veux.
La famille.
Quelque chose qui t'a marqué.
Oui. Enfin, m'a marqué, c'est la naissance de mes petits-enfants, de mes enfants premiers, de mes petits-enfants, et les repas. C'est que chez moi, on a l'habitude de faire des repas de famille, tous ensemble.
Combien de personnes ?
Ah ben, tu sais, ça dépend. Les baptêmes, ça peut arriver à 100 personnes, les mariages à 150 personnes, moins les pique-niques, tu vois, quand on va pique-niquer, toutes les familles se réunissent. Passer un bon moment en famille.
C'est voilà. De l'amour.
C'est de l'amour, oui. La famille, c'est tout.
Avez-vous des souvenirs de fêtes de famille ?
De fêtes de famille, ouais, j'en ai beaucoup. Je fais partie des gens du voyage. Vous savez, les fêtes chez nous, il y en a beaucoup.
Est-ce que vous me racontez une petite anecdote ?
Bah, le mariage de ma sœur. Oui. Bah, ça s'est bien passé, tout ça. Et on a eu, il y a eu au moins plus de 3000 personnes. Donc voilà, chez nous, chez les Gitans, il n'y a pas d'invitation. Tout le monde est le bienvenu, que ce soit noir, français, arabe, comme vous voulez. Genre, mettons, si j'ai des amis à moi, des amis proches, bah, ils viennent, quoi. Donc.
Alors, le grand-père de mon épouse qui me regarde là devant le micro et qui chantait à chaque fois des airs et tout le monde reprenait ses airs, voilà. C'était des grands moments, ouais.
Oui, j'ai un souvenir super, super joli. Le souvenir, il est que mon fils, il est né. Voilà. Mon fils il est né, voilà, pour la première fois je l'ai changé les couches et tout ça, et après je pense que c'est plus que la joie.
En fait moi c'était plutôt avec c'était de la famille d'une personne à qui j'ai vécu pendant très longtemps. Mais c'était plutôt les réunions. J'aimais bien les réunions du dimanche.
Ça se passait comment ?
Toujours. Est-ce que vous avez vu le sketch des Inconnus Nouvel An ? Bah c'est un peu toujours comme ça en fait. Voilà, on discute bien, on machin, et puis ça finit toujours par des blagues. Il y a toujours par la politique. Et puis comme on a toujours tendance à mettre un petit coup dans le nez, et puis bah on finit toujours par s'engueuler, et puis après, 5 minutes après, tout est fini. Et le dimanche après, on recommence. Et ainsi de suite. Mais moi j'aimais bien cette ambiance-là en fait. Je trouvais qu'en plus les gens se réunissaient tout le temps, on se voyait en permanence, donc. Moi, je trouvais ça cool, quoi.
Les mecs de droite ou les mecs de gauche, ouais, c'est-à-dire, ouais. On est d'accord, c'est tous des pourris. Ouais. Surtout les mecs de gauche, d'ailleurs.
Attends, tu vas pas mettre les extrémistes au pouvoir, maintenant, alors.
Raconte, je pas dit ça. Enfin, écoute ce que je te dis. Je te dis que les mecs du Front National, ils disent...
Ils voulaient qu'on s'avale le Beaujolais, regardez ce que j'ai trouvé. Un pommard 59, le cachotier, lui.
Les mecs du Front National, ils disent pas que des conneries. Voilà ce que
ça veut dire, Front National.
On va parler politique. Il est où, le petit tire-bouchon?
Alors, attends, il n'y a pas de tire-bouchon pour le pommard, parce que le pommard, il reste là, on ne touche pas.
C'est lui qui t'a énervé, c'est pas moi qui t'ai énervé, merde.
Mais comment ça? Qu'est-ce qu'on me reproche ici, moi, hein?
Merde, alors, ça veut dire quoi, ça?
Quoi? Attends, écrase 2 minutes, hein. Écoutez, hein. Qu'on crève l'abcès, qu'on crève, qu'il faut qu'on crève. Allez, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as à me reprocher?
Mais quand tu m'écoutes, c'est lui, là, qui...
Comment ça, c'est moi? Mais regarde-moi quand tu me dis ça, merde. Heureusement que c'est à moi pour foutre la bonne ambiance. Heureusement, avec votre onze enterrement, heureusement que c'est à moi pour sortir des conneries. Vous êtes pas regardé, merde.
De retour ici au centre social pour Caredas, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur. Épisode 3 avec Esther.
Alors, on vient d'écouter différents souvenirs de famille. Après cet extrait de La gloire de mon père d'Yves Robert. Et toi, Esther, est-ce que tu as un souvenir de famille marquant à nous raconter?
Bien sûr. Alors, un souvenir de famille marquant. Alors, je n'ai peut-être pas un souvenir précis, mais un lieu. En tout cas, on dit souvent aussi c'est Proust. J'aime beaucoup là quand il parle de sa madeleine, du fait qu'il mangeait une madeleine en fait, et ça lui rappelait sa tendre enfance. Et donc on parle souvent maintenant de la madeleine de Proust. Alors moi, ma madeleine de Proust, ce serait Roscoff, puisque mes grands-parents en fait habitaient Roscoff, et j'ai passé toutes mes vacances. Mes grandes vacances donc d'été et puis les petites vacances à Roscoff, et c'était vraiment la maison en fait où on se retrouvait quoi, avec les tatas, les cousins, les parents. C'était vraiment la maison où il y avait du monde, ça rentrait, ça ressortait, et puis du coup ben avec notre mamie et notre papy, on allait à la plage, donc Rocroum, les piscines d'eau de mer, Peyrarédy, les glaces sur le port, voilà. Et puis cette maison, vraiment voilà, cette maison à Roscoff, où on pouvait tous se retrouver, et puis avec les cousins on adorait aller fouiller dans les placards de nos tatas pour enfiler des robes, se déguiser, enfin voilà, ça c'est vraiment ma petite madeleine de Proust.
Ce sera quoi pour toi la famille de demain?
Alors la famille de demain, je pense que c'est peut-être un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, plus ça va aller, moins on va être sur des questions de sang, en fait, de famille de sang. Je l'espère. Et je pense que la famille de demain, c'est de pouvoir faire famille, en fait, avec les gens qu'on aime. Et de pouvoir faire foyer et être en foyer avec les gens qu'on aime, voilà, qu'on choisit. Que ce soit des recompositions familiales, que ce soit celle du sang parce qu'on est bien, ou des amis avec qui on a envie de vivre et de faire famille. Voilà.
Merci beaucoup Esther d'avoir été avec nous ici à Caredas pour cette troisième émission. On se retrouve tout de suite après un micro-trottoir sur l'adoption des gens qu'on a rencontrés à Morlaix il y a 3-4 semaines déjà. Et un peu de musique aussi avec Aurel San et sa chanson « Mes grands-parents ».
Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre 6 mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFlurry d'un, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a creusé sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « Fais pas le malin », et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre rien n'est illégal si personne est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants, et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants, c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile. Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile. Mon grand-père a plus de filtre, il raconte les putes à l'armée. Ma grand-mère lui rappelle qu'à l'époque ils étaient déjà mariés. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laisse rap à la mémoire s'effacer.
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers.
Et pour vous, elles vont jusqu'où les limites de la famille ?
Personnellement, moi j'ai adopté une petite fille, donc elle était du Vietnam, donc pour moi la famille c'est très très élargi. C'est pas uniquement la famille de sang, c'est aussi la famille de cœur.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir de famille ? Une fête de famille, une réunion de famille, un moment particulier de famille ?
Le baptême de ma fille, c'était un moment très important. Nous étions énormément et c'était vraiment une très jolie fête dans une très belle salle et j'en ai de très bons souvenirs. On a beaucoup chanté, on a beaucoup dansé, on s'est bien amusé.
Du coup, c'est votre fille adoptée ?
Oui.
Vous voulez me parler un peu d'elle ?
Oui, elle a 27 ans maintenant. Et
elle est petite ?
Oui, elle avait 7 mois et demi quand on l'a eue. Son adolescence, c'était une petite fille très facile à vivre, mais une adolescence très compliquée. Maintenant qu'elle est grande, elle est très attachée à nous et nous aussi, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir parce que elle envisage peut-être d'aller vivre à l'étranger. Je ne sais pas si elle s'habituera à la France. Elle a beaucoup de mal à s'habituer à la France. C'est quelqu'un qui est parti en Australie, vécu au Canada, qui envisage de repartir au Canada, de peut-être vivre au Vietnam. Enfin, elle ne sait pas trop pour l'instant.
Ouais, d'accord.
On verra.
Et est-ce que vous pouvez me raconter une bêtise qu'elle a fait quand elle était adolescente ?
Oula.
Mais par exemple, là-bas, en Australie, elle avait acheté un scooter. Deux jours après, il tombe en rade. Donc, elle avait rappelé un copain qui avait été fait là-bas, qu'ils ont fait venir un moteur de Thaïlande. Ils ont réparé le scooter. Et puis, après, elle l'a revendu. Après, elle a conduit une voiture sans permis.
D'accord.
Elle s'est fait arrêter par la police. Football, il lui a même pas demandé les papiers. Il lui a dit tout va bien, hop, circuler. Comme c'était une voiture automatique, ouais. Alors c'est facile. Elle n'avait jamais conduit sa vie.
Enfin bon, faut peut-être pas tout mettre.
Il y aura plein de choses de couper.
On s'en fout, c'est pas grave, c'est la vie.
Je pense que
elle a mûri et tout, et puis elle a vu que quand même qu'elle avait des parents quand même qui étaient vraiment larges. Maintenant elle nous dit qu'en fin de compte on était un peu trop gentil avec elle. C'était l'adolescence, elle était
barraquée.
Je vois ça, ouais.
Elle a fréquenté un copain, là, il était bien et tout, il fumait, il faisait rien, mais il fumait. Comme nous, on est des parents larges, ils venaient coucher à la maison, un mec, une potiche, oui. Vous prenez, vous mettez sur la table, vous bougez rien. Il mangeait pas beaucoup, il fumait beaucoup. Ouais. Là, son shit, là, il y allait à fond. Mais elle l'a laissé tomber. Alors, donc après, ça a été tranquille.
Heureusement. On n'y a pas plus loin.
Quel imparfait. Non, mais c'est marrant.
Et on accueille en plateau, ici à Caredas, notre nouvel invité, Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Dans cette matinée ensoleillée, le soleil arrive.
Absolument.
Sur Morlaix, après quelques gouttes, on attend que la température monte. En tout cas, ça commence à chauffer ici en plateau.
Oui, je l'espère. Pour vous, mais peut-être moins pour moi.
Ah bon ?
J'aime le temps breton.
Sois le bienvenu Alexandre, c'est quoi pour toi la famille ?
Bonjour auditrice, auditeur, bonjour l'auditoire. Donc la famille pour moi c'est la cellule d'une société qui décide d'avoir un même destin. Il est donc tout à fait normal que dans une institution comme celle-ci, que la famille soit au cœur de son projet, de tout ce qui peut se faire tout autour. La question de la famille est une question donc hyper sensible. La famille, c'est d'abord beaucoup d'amour, parce que cela nous vient instinctivement. La famille, c'est l'éducation. Moi, je dirais l'éducation. C'est une question pour moi qui doit être au-dessus de tout. S'il n'y a pas d'éducation dans une famille, on pourrait parler de famille morte. Alors, ce n'est pas une notion qui est gaie.
Est-ce que vous avez un souvenir de famille à nous raconter ?
Oui, des souvenirs, j'en ai beaucoup dans ma tête. Et je suis un tout petit peu désolé parce que j'ai des origines africaines et je suis essentiellement, peut-être au niveau de ma situation qu'africain, je sais que j'ai souvent été très content d'être... Moi, je suis né dans une famille très grande et très nombreuse où des choses, un certain nombre de choses qu'on ne peut pas toujours évoquer ici parce qu'elles sont mal vues, ne nous posaient aucun problème. J'avais des frères et demi-frères, je ne les ai jamais considérés comme des demi-frères. Je sais que je ne pourrais pas penser de ma famille à géométrie variable. Je n'ai que des sœurs et des frères. Et quand il nous arrivait de recevoir une sœur ou un frère qu'on ne connaissait pas et qui nous tombait comme ça du ciel, c'était toujours une grande fête. Ce qui n'est pas le cas ici. Et ça peut se comprendre, les contextes n'étant pas les mêmes, la manière de voir des choses n'étant pas la même. Donc, je préfère parler de la famille d'ici que celle de mes origines. Pour parler des familles d'ici et où je me suis retrouvé que par les biais du cœur, j'ai été reçu à Roscoff, plus exactement à Sibiril, par une famille adorable et qui m'a adoré. Ah. J'étais là-bas, j'avais ma chambre. Quand j'arrivais, j'étais carrément en prince. Petit déjeuner, on était au petit soin, on anticipait tout ce dont on pouvait imaginer que j'avais besoin. J'ai vécu là-bas, à Sibiril exactement, dans la famille. En fait, oh là là, je parle avec émotion et du coup.
Bah oui, j'imagine.
Ouais, ouais.
Quel âge tu avais, Alexandre?
Oui, bon, quand je suis arrivé ici, j'avais 53 ans.
D'accord. En tout cas, on se retrouve tout de suite aussi avec Habiba qui nous a rejoint ici en plateau. On va écouter un court extrait d'un micro-trottoir également sur la transmission et on revient avec vous en plateau tout de suite après ça.
Et est-ce que vos parents, papa ou maman, vous a transmis quelque chose d'eux?
Ma mère, le travail, ça c'est sûr.
C'est-à-dire?
Pour elle, il n'y a que ça d'important, alors forcément.
Le sens du devoir.
Ouais, c'est ça, le sens du travail.
Et mon père, le goût pour les bonnes choses.
La nourriture.
Par exemple.
Le vin. Non? Bah, je sais pas,
le bon vin,
c'est le fromage, le vin et il est ouf quoi. C'est ce qu'on dit en général.
C'est bizarre, dit comme ça, le vin. Ça tient. Et toi, Virge, elle t'a transmis quoi, maman?
Son caractère.
Ah non, c'est ce que je voulais dire. Moi aussi, son caractère. Genre, je suis têtue. Un truc de fou.
Ah ouais, vous êtes toutes les deux.
Bah, merci. Ouais.
Bonjour Habiba.
Bonjour.
Bienvenue sur notre plateau.
Oui.
Chez vous, comment ça se passe la transmission?
Chez nous, la transmission, comme chez moi.
Qu'est-ce que vous transmettiez de mère en grand-mère?
Ah, c'est l'éducation. On est bien, hein? C'est pas pareil, hein? Parce que nous, l'éducation, on n'a pas droit. Si ma mère me parle, il ne faut pas que je honte le ton. Il faut se baisser, même si tu n'as pas tort, mais il faut accepter.
D'accord.
C'est là que j'ai pris pour éduquer mes enfants.
Et alors, comment ça marchait? C'est une règle de la famille, c'est
ouais,
ça?
C'est une règle de la famille. Ça c'est bien marché parce que comme si on est en France, c'est pas pareil comme chez nous. Mais je les ai éduqués comme chez nous. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas... S'il y a des gens qui viennent à la maison, il faut aller se cacher dans les chambres.
D'accord.
Non, ce n'est pas caché, mais il ne faut pas rester avec les personnes âgées.
OK.
Ouais, c'est ça. Puis après, bon, je les ai élevés comme ça, c'est pas... Puis après, j'ai vu que ce n'est pas la même mentalité qu'ici, mais ils ont... Je les ai... Les deux mentalités ici, comme je suis comorienne.
D'accord.
Ouais.
Et par rapport à vos enfants, comment qu'est-ce que vous leur avez transmis? On voyait tout à l'heure une des questions du micro-trottoir, c'était moi j'ai récupéré le caractère de ma mère, le goût des bonnes choses de mon père. Qu'est-ce que vos enfants ont repris de vous, vous pensez?
Caractère aussi.
Le caractère
ouais,
aussi.
Ouais, ouais, ouais. De toute façon, moi je ne sais pas faire. On rigole, mais si ces choses-là, il ne faut pas les faire, il ne faut pas. Je suis bien avec mes enfants. Si vous voyez parler avec eux, on dirait que c'est mes soeurs, mes frères. Mais après, s'il y a des trucs comme ça, il ne faut pas faire. Non, c'est non, c'est non. Et bien, ils ont pris.
Et qu'est-ce que vous faites en famille?
En famille, il y a la fête, c'est le mariage. Tous se réunissent pour faire la réunion, comment on va s'organiser le mariage. Aussi, il y a le décès aussi, des trucs comme ça. Parce qu'en plus, il y a les fêtes pour... le garçon, si on le fait considérer, il y a aussi la fête. Tout ça, c'est là qu'on est en famille. En famille, c'est à cette époque-là qu'on fait, on est en famille. Mais c'est pas, des fois, la famille chez nous, c'est la famille, le sang et les amis aussi.
C'est ça. Ouais. C'est aussi une vision de la famille.
Les amis, ouais.
C'est ça qu'on... C'est pas que la famille avec le sang, mais c'est ça.
Alexandre, toi, par rapport à cette question de transmission, est-ce que toi, tu as une réflexion par rapport à ton vécu ?
Oui, je pense que, au risque de dire des choses un tout petit peu compliquées,
vas-y, allez,
une famille,
on va s'accrocher.
Une famille se reconnaît aussi par son identité sociale. L'identité sociale, un type de comportement, une manière de faire. Chez nous, ça c'est très important. Parce que chez nous, la famille n'est exclusivement pas qu'une question génétique ou de sang. Si vous ne correspondez pas à la typologie sociale d'une famille, il n'est pas exclu qu'on en soit écarté, voire définitivement.
Et on poursuit en musique avec The Sister Sledge et We Are Family.
Pour moi, c'est super important parce que j'ai perdu ma mère très jeune. On était une famille de 5 enfants. Et donc, je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux, voilà, pour moi. Mais après, il n'y a pas que la famille, quoi. J'aime bien les gens en général. Donc, mais c'est vrai que voilà, la famille, c'est très, très important. Principalement mes gosses.
Oui.
Voilà, mes enfants.
Tes enfants.
Voilà, j'ai deux garçons, dont un qui a eu un accident très grave au mois de novembre. Et voilà, j'ai cru que j'allais le perdre. Donc, voilà. On n'a pas besoin de ça pour savoir qu'ils sont précieux, mais quand même.
La famille, oui, c'est d'être réunis tous ensemble et surtout de s'entraider dans les moments
difficile. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, quand il y a des moments difficiles, par exemple, je prends un exemple, moi j'ai eu un cancer là en janvier et ma famille, ma maman, ma tati ont été très présents et ça aide beaucoup. Pour moi, c'est ça la famille. Ouais.
Et vous avez fait quelque chose quand vous vous êtes retrouvés ?
Mais non, parce que je crois que les grandes choses, les grandes dates, ce qui vous marque profondément, vous ne le criez pas sur les toits, quoi. C'est quelque chose que vous portez en vous.
Et comment vous pouvez me le décrire ? J'ai envie de savoir.
Alors, c'est l'envie, hein, on n'y arrive pas toujours, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. C'est pas qu'on les cache, c'est que on ne trouve pas les mots. On n'arrive pas à dire « Ah, je vous ai retrouvé, je suis bien, je suis content d'être avec vous. »
La famille, c'est vraiment important.
Ouais, c'est important.
La famille qu'on s'aime.
Oh, t'es trop mignon.
C'est la famille qu'on s'aime.
Oui.
Et de retour ici à Caredas avec Habiba et Alexandre pour la fin de cette émission. On écoutait dans le dernier micro-trottoir la force de la famille dans les moments difficiles, mais on entend aussi la difficulté de se dire qu'on s'aime quand tout va bien. Est-ce que dans vos familles, on se dit qu'on s'aime ?
C'est un peu
Habiba.
On dit, on s'aime, mais c'est pas comme ici.
Non.
Quand je vois ma fille, je t'aime. Mais là, on le montre. Mais on ne dit pas tout le temps. Ce n'est pas notre langue. Mais on le montre que oh, ma fille, je t'aime. Ce n'est pas comme ici. On le montre, mais pas, on ne le dit pas.
C'est ça.
Ouais.
Ce n'est pas facile hein, de se dire qu'on s'aime. Alexandre ?
Moi, c'est très facile pour moi c'est de dire que j'aime. Peut-être même que je le dis souvent un peu. Je ne sais pas. Bon, donc on pourrait trouver que c'est trop, mais au fond, je ne le pense pas moins. Tout de même, dans l'éducation de mes origines, j'avoue aussi que ça ne se dit pas. Mais il y a des attitudes, il y a un discours qui s'y approche et qui vaut également le mot amour. Et également, et même surtout, les parents chez nous ont tendance à dire ce qu'ils pensent de leurs enfants plutôt à leurs vrais amis. Et c'est dans ces moments-là que nous, les enfants, on peut peut-être voler comme ça au passage en rigolant, en fait, en s'amusant à côté ou en passant tout simplement voler une parole, une confidence d'un père, du papa qui donc dit à son qui peut être en train d'exprimer à son ami les sentiments qu'il porte et le regard qu'il porte à, et même l'idée aussi qu'il se fait de tel ou tel fils.
Quelqu'un d'extérieur de la famille.
Oui, à la vérité c'est pas si vous savez, excusez-moi de revenir un tout petit peu sur une chose. Je pense que ces choses-là existent également ici, mais ne sont pas prises en considération par les éléments de droit qui font de votre société. J'ai lu la biographie dernièrement d'un de vos illustres présidents avait aussi une famille composée. Je me suis rendu compte quand même que ses dernières volontés, il les a plutôt confiées à ses amis, hein, n'est-ce pas, qui étaient extérieurs, soi-disant, à la famille, parce que pour lui, ces personnes-là faisaient vraiment partie du cœur même de la famille.
Ouais.
Vous comprenez ?
Ouais, ouais.
Voilà.
C'est ça, c'est cette vision un peu de la famille élargie dont on parle beaucoup depuis presque une heure maintenant. Mmh. On avait, je crois, une dernière question avant de se quitter, Marine.
Habiba, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la famille ?
La famille ?
À votre famille ou sur la famille en général
Ou un message à votre famille, quelque chose que vous n'avez jamais dit. Et là, justement, grâce au micro, on peut le dire indirectement.
Ah, ma famille, je les aime. C'est ma famille. Quand qu'ils soient, c'est ma famille. Je les aime. Ouais.
Waouh. C'est beau. On a beaucoup d'amour en cette fin d'émission. Et Alexandre, un mot.
Oui, moi, je considère toutes les personnes que je croise ici comme ma famille. Je parlais tout début. Je sais que ça peut paraître comme ça de votre point de vue, mais du mien. Qui compte par rapport au rapport que j'ai avec vous, je vous dis sincèrement que je vous adore.
Merci.
C'est pour cela que je n'hésite pas, quand je croise telle ou telle personne, d'avoir des nouvelles personnelles, y compris celles des personnes qui gravitent autour de ces personnes-là. Je n'hésite jamais, il me semble.
Bah, c'est une grande famille, Caredas, en tout cas.
Avant de se quitter, on voulait vous faire écouter un extrait de film et ça, c'est juste pour vous faire plaisir.
Merci.
Merci.
Bonjour. Je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours... La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et vous aurez reconnu Tom Hanks dans Forrest Gump. Et on trouvait sympa de faire un peu ce lien, parce que c'est vrai que cette émission Caredas, on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on commence ces émissions. On a 3 vendredis après-midi pour travailler le sujet. On ne sait jamais ce qu'on va y mettre au tout début. Et puis, on fabrique ça tous ensemble avec cette belle équipe des services civiques et des habitants du quartier. En tout cas, je trouvais intéressant de faire ce lien. Et moi, j'en profite pour vous remercier tous de votre mobilisation sur ces émissions, de toute l'énergie que vous mettez là-dedans. Mais là, c'est un big up perso qui n'était pas écrit sur la feuille. Ils vont nous manquer, ces services civiques. Là, c'est leur dernière semaine.
Vous allez nous manquer aussi.
En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Nord Bretagne ou ici en public à Caredas.
Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission. Tennessee, Gaëtan, Magali, Marine, Alexandre, Marie-Pierre, Christophe, Ayla, ainsi qu'à moi-même. Et merci à Biba.
Merci, je vous
en prie.
Merci
beaucoup Esther.
Merci Esther.
Merci à toi Samira et merci à nos invités. Esther, Habiba et Alexandre.
Nous aussi, nous vous disons
gentil.
Merci et vous souhaitons les choses les meilleures pour la suite de vos projets de vie. Et merci infiniment, n'est-ce pas aussi, à cette radio qui est animée ici par le talentueux Yann. Ouais, le talentueux Yann. En lui souhaitant, c'est parfois un peu l'émotion, vous savez.
Ouais.
Moi, je m'engave très rapidement et parfois elle me déborde aussi rapidement. Je souhaite longue vie à votre projet de radio ici dans le Nord Finistère, si je ne m'abuse.
Merci Alexandre.
Passez un bel été. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission Caredas, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur. À bientôt.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Ouais.
C'était très bien! C'était très bien! Oh! Et alors? Alors, je vois plus long que ton père! À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rire, à toi, il te fait rire! Oh,
très bien! Tiens, je suis heureux!